Salut Greg.
Salut Jean-Fred, ça va?
Ça va super bien. On est en plein dans le meilleur moment de la saison. Là,
les vacances.
Hein. Des vacances. Je suis obligé de m'excuser. Quoi.
Moins de 10 secondes hein, avant de faire une vanne. J'ai pas tenu plus. J'ai tenu le plus longtemps possible.
je savais que j'allais ramasser. Donc,
c'était la dernière, promis.
Pendant que toi, tu sillonnes les patinoires, j'ose prendre quelques jours. C'est terrible. Donc, meilleur moment de la saison. Et en plus, on a une demi-finale entre deux clubs romands. C'est pas forcément les meilleurs moments au niveau des réseaux sociaux. J'ai l'impression que les tensions accumulées au fil de la saison, elles ressortent à ce moment-là.
Ouais, pour l'instant, il n'y a rien à signaler à part ça. Je trouve que rien à dire, mais laissons là. Comme tous les joueurs des deux côtés, des deux camps disaient que les émotions n'étaient encore pas... comme si tout le monde était un peu vidé après une série de 7 matchs et qu'il fallait un peu relancer la machine. Peut-être c'est un peu la même chose à cet endroit-là. Mais nous, d'un point de vue professionnel, c'est vraiment super d'avoir deux équipes romandes, d'avoir plein de choses à écrire, plein de choses à raconter. Donc ça, c'est quand même un moment chouette. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être masquer son Instagram pour plus qu'on puisse recevoir de messages de gens. Je pense pas qu'ils nous écoutent, mais recevoir des insultes par message Instagram, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, salutations. Sinon, ça a commencé tranquillement. Comment tu veux structurer ça? On parle du match en général ou est-ce qu'on parle d'abord juste des deux scènes un tout petit peu limite de ce premier acte, à savoir le but d'André Bikoff et l'arrêt de Reto Berra?
Ouais.
Il y a eu deux cas. On évacue ça d'un coup. Donc, il y a eu l'arrêt de Reto Berra, préambule. Il y a hors-jeu au début de l'action, il y a le staff vidéo qui est deux rangs devant nous, ils avaient déjà un peu isolé la séquence, le staff vidéo de Fribourg, ils avaient déjà isolé la séquence et en gros c'était clair qu'il y avait hors-jeu en entrée de zone, donc même si les arbitres avaient accordé ce but dans un second temps, il y aurait eu un coach challenge de Fribourg et il aurait été annulé, c'est sûr. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même expliquer ce qui s'est passé. Berra fait un arrêt bizarre du dos où il bloque le puck après avoir justement eu le puck sur l'arrière de lui, puis il bloque contre le poteau. On ne sait pas où est le puck.
Voilà, moi tu t'as dit tout ce que... La seule remarque pour moi c'était « je ne vois pas le puck ».
Ouais.
Oui, mais bon, la mitaine est dedans. Et je me rappelle, il me semble que c'était...
Martin Gerber 2006 Turin.
Alors... Il y avait ça.
Pour moi, ça, c'est la... C'est
est-ce que t'es pas en... Moi, je me rappelle peut-être en 2002 à Salt Lake City, je vois le Canada, mais je vois Mario Lemieux. Donc, je me dis, il n'était pas en 2006, c'est pour ça. Et le puck, tu vois la mitaine depuis en haut, tu vois qu'il est quand même bien dans le goal. Et ça, je crois qu'il l'avait accordé en se disant, vu que la mitaine est dans le goal... C'est impossible que le puck soit ailleurs, en fait, qu'il n'ait pas franchi la ligne.
Ouais, mais c'est un problème. Du coup, tu fais une spéculation. Tu vois pas le puck. Et d'ailleurs, c'est ce qui était arrivé, sauf erreur, c'est sur Rick Nash, mais j'ai un tout petit doute. J'aurais dû me préparer avant de venir. Mais sauf erreur. Et Gerber a la main. On voit que le puck, il doit être au fond de la cage, mais t'as la caméra en dessous du but et. Bah non, on sait pas. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on. Et là, on peut même pas supposer qu'il est dedans. On sait pas.
Ouais.
Quoi qu'il arrive, on ne sait pas. Ah, bon, de toute façon, il y aurait eu hors-jeu, donc ça, c'est pas un truc trop important. Il y a eu l'autre chose, c'est le but
Julien Sprouy-Bikoff.
En fait, le truc, c'est que Bikoff nous dit lui-même, ouais, mais techniquement, c'est Julien qui touche en dernier, alors moi, je ne le vois pas à la vidéo. Il a visiblement pas été accordé à Julien Sprouy-Bikoff, c'est André Bikoff qui touche, en tout cas pour sûr. En entrée de zone, il y a un hors-jeu, clair. Parce que Pilot ramène le puck dans la zone, mais de manière pas intentionnelle. On voit que c'est avec le corps qu'il le pousse, etc. Julien Sprunger est hors-jeu. Mais Julien Sprunger est quelqu'un d'un peu malin et expérimenté dans cette ligue. Puis il voit qu'il y aura un hors-jeu de Ferreira, ou je ne sais même pas s'il a l'arbitre face à lui. Il revient, il met le bout du patin sur la ligne. Donc il se remet en jeu. Le hors-jeu de Ferreira est annulé vu qu'il n'a pas fait action sur le puck. Et là, il peut continuer son action. Donc oui, il y a un hors-jeu net en entrée de zone qui est annulé parce que Julien Sprunger se remet en jeu. Et derrière, il y a ce qui se passe, le but, 2-1. Colfax, saison 1, épisode 3. Colfax, saison 1, épisode 8. Colfax, saison 1, épisode 13. Les laïus sur les caméras sur les lignes bleues. Il me semble qu'on en a assez parlé. Encore une fois, on a un cas qui se joue à un millimètre. Je pense que la décision est correcte sur la base de ce qu'on a là. Ce qui veut dire, sur la glace, le but est accordé vu que le jeu a continué.
Ouais.
Cette image ne nous permet pas de,
d'invalider
le but. Enfin, de prendre Sprunger en flagrant délit de hors-jeu. Est-ce qu'une caméra sur la ligne bleue l'aurait peut-être fait ? Je suis même pas 100% sûr, parce qu'on voit quand même sur l'image qui vient depuis dans le dos de Julien Sprunger, il y a une image où on voit le patin, à mon avis, sur la ligne. Mais il y a quand même un angle qui est différent. T'es pas face à la ligne bleue, t'es depuis la ligne rouge. Donc forcément, il y a une différence d'angle qui peut... Honnêtement, la décision sur la glace est correcte, dans le sens, le processus décisionnel est correct. Est-ce que la décision au final est correcte ? Je sais pas. Et finalement, avec les images à disposition, on peut rien faire d'autre. Donc, pour moi, le processus est juste.
C'est évidemment à discuter. Et il y a plein de... Il y a eu un coach challenge de Lausanne, justement, pour le hors-jeu. Ça a pris quand même pas mal de temps aux arbitres, aux juges de ligne, plus exactement, qui, avant de rendre leur décision, on voyait les discussions... C'est long, mais je trouvais qu'ils ont vraiment essayé de faire au mieux.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas dit, on va regarder 3 secondes, ouais, ouais, c'est bon, tant pis, on ne voit pas bien. Ils ont vraiment essayé d'aller jusqu'au bout. Et il n'y avait malheureusement pas d'image extrêmement bonne, quoi.
Non, je suis d'accord. Moi, j'ai quand même 2 réserves sur cette histoire. Une, c'est que derrière, on donne 2 minutes de pénalité à Lausanne, qui n'a eu certes aucune conséquence, mais qui aurait pu en avoir.
Oui.
Parce qu'il y a le 2-1, ok, mais dans la foulée, il peut y avoir le 3-1 à la 47e, puis le match est plus ou moins plié. Pour une faute qui n'en est pas vraiment une. Parce qu'en fait, on en est arrivé, à mon avis, j'ai pas entendu ce qu'ont dit les arbitres, hein, mais partons du principe qu'ils en sont arrivés à la réponse que c'est non concluant, les images. Et je pense que c'est ça. Et souvent, c'est ça le truc, c'est qu'on n'arrive pas à dire si oui ou non. Ce qui veut dire que le coach challenge lausannois n'était pas forcément une perte de temps, on va dire, mais légitime, vu qu'aucune image n'a prouvé qu'ils ont eu tort. Mais moi, je trouve que dans un cas comme ça, on devrait dire pas 2 minutes de pénalité. On n'a pas non plus la preuve que vous vous êtes trompé. On n'a pas la preuve que vous avez raison, mais on n'a pas la preuve que vous êtes trompé. Donc, on ne vous pénalise pas. On accorde le goal, mais je trouve qu'il devrait y avoir cette nuance dans le règlement.
Est-ce que tu penses que c'est facile d'avoir un règlement aux... Bon, dans ce cas-là, oui. Bon, dans ce cas-là, non. Bon, dans ce cas-là, oui.
Conclusive, non conclusive. Enfin, en fait, pour moi, c'est binaire.
Ouais.
Les arbitres sont là, arrivent et disent « image non concluante ». Bon, bah vu que c'est ça l'issue du coach challenge face à la vidéo, c'est image non concluante, pas de pénalité.
Alors,
ça me semble clair.
Ce que j'aime bien en Amérique du Nord, des fois, c'est que quand ils doivent annoncer quelque chose, ils viennent, ils allument leur micro et ils parlent à toute la patinoire. Et à la rigueur, ce qui pourrait être assez intéressant dans ces cas-là, c'est de faire « nous avons regardé les images ».
Je te fais dans une patinoire suisse. Ça donnerait un truc comme ça dans une patinoire sur deux. Donc j'adore l'idée, mais j'y crois pas une seule seconde.
Ouais.
Le son est dégueulasse dans une patinoire sur deux. Donc oui. Après, il y a encore un problème de langue. On dirait, après, si t'arrives avec un arbitre suédois qui parle en anglais, mais oui.
Mais après, au pire, on s'en fiche. Même s'il parle en suisse allemand et qu'il vient dire le truc, puis qu'il fait. À la fin, il fait « no goal, no pénalité » ou un truc comme ça. Puis tu te dis « bon, ok, il a fait son truc. » Puis les gens, au moins, peuvent avoir compris quelque chose. Parce que le pire dans tous ces cas-là, c'est ce sentiment. Alors déjà, il y a le sentiment de potentielle injustice et le sentiment de « ouais, mais on ne comprend pas. »
De pas citer.
Ouais, exactement. C'est exactement la même chose avec les on le voit assez avec le juge unique et le PSO qui te met « un coup 2, un coup 3, un coup 5, un coup 1, puis les gens essayent de se dire « Ah, mais tiens, c'est une charge à la tête aussi. » Puis il y a oui et il y a non. Alors là, ils ne comprennent plus rien. Bah, c'est un peu le cas là. T'as dit que là, s'il y a quelqu'un... En fait, on est obligé d'attendre un article de toi pour dire « Oui, mais si jamais il y avait hors-jeu sur la séquence. » Alors que s'ils avaient pu dire « Mais ne vous inquiétez pas, il y avait hors-jeu sur la séquence, un truc pour expliquer. » Bah, sinon, les gens... Ouais, ça crée plus de tension encore qu'il y en a déjà.
Mmh. Je sais plus si j'ai déjà fait la théorie dans cet épisode ou si je l'ai faite à des gens dans les patinoires, donc vous m'excusez si je me répète. En même temps, tout le monde n'écoute pas tous les épisodes,
non.
Au pire. Mais moi, il y a l'autre point, et je tiens cette théorie et je l'ai trouvée très intéressante d'un podcast de basket que j'ai écouté où justement, il se plaignait des vidéos à rallonge. Tu sais, c'est 3 visionnages en temps réel. Et si à la fin de 3 visionnages, à vitesse réelle,
on voit pas.
On n'a pas de décision. Et ben, c'est que c'est tellement too close to call, ben, tant pis, on y va, quoi. Donc là, si tu regardes trois fois, tu dis, ben, désolé. Alors là, on est en train de chercher les pixels et puis on n'a aucune chance d'arriver à la décision, donc on ne perd pas quart d'heure collectivement. Et ma foi, on a fait nos trois visionnages, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de réponse possible, donc jouer. Je trouverais aussi assez intéressant des fois de se gagner un petit peu de temps. Je suis totalement favorable à la vidéo, mais il faut quand même que ça reste dans les limites du raisonnable. Par contre, là où je te rejoins, c'est que la décision a été mûri, on va dire, parce qu'il n'y a aucune limite actuellement, et je pense qu'ils ont vraiment bien pris le temps de pas faire faux, et bah, c'est à mettre à leur crédit.
Il y avait cet article aussi, c'est un article de Blick alémanique, je crois, avec Bien qui
absolument.
Est en collaboration avec Tissot, qui développait une offre pour équiper toutes les stades avec des caméras haute qualité. Je rebondissais là-dessus parce que je me disais que ça pourrait être... On n'avait pas trop parlé à l'époque, et l'époque, c'était le 13 mars, donc ce n'est pas trop, trop vieux. Mais ça pourrait être quelque chose d'assez positif, surtout que, visiblement, selon l'ancien directeur de Swiss Signing, Peter Hürzler, c'est des images qui donnent 100... des caméras qui donnent 100 images par seconde et pas juste 25. Et... Ça coûterait, en fait, un contrat de 10 ans pourrait coûter au club 10 000 francs par saison. Et t'es là, moi je suis désolé. On le voit dans un... Ça ferait 1,5 million de francs pour la totalité et toutes les patinoires de National League pour 10 ans. Quand tu vois... Parce que des fois, on se dit, ouais, mais bon, si c'est pour une action... Là, il y a eu quoi ? Il y a eu deux actions qui nécessitaient des visionnages. Il peut y avoir une... Un coup de coude, quelque chose qui peut nécessiter 5 minutes ou pas, où les arbitres doivent voir. Moi, je trouve que c'est des investissements qui sont vraiment extrêmement faibles, finalement, pour ce que ça peut te rapporter, en fait, plus sur l'équité sportive. Et l'équité sportive va faire que ton produit que tu vends, on va dire, non, mais le championnat de Suisse, au moins, il est fair, en fait, il est juste.
Absolument, absolument.
Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
Petite capsule Paris sportif. Effectivement, avec les playoffs maintenant, bah, y a moins de matchs à choisir. La dernière fois qu'on avait fait ça, Greg, t'étais sur une bonne série. Là, ouais. T'avais pris Zurich en disant, les gars, vous verrez, Zurich, ils vont boucler l'affaire. C'est bien ce qui s'était passé contre Bienne. Et puis, moi, j'étais pas passé loin, mais enfin, c'est comme toujours, c'est pas passé quand même. J'avais mis une victoire de Lugano contre Fribourg et ça s'était bien passé comme ça, mais après prolongation. Donc, il aurait fallu mettre le match nul pour que ce soit OK. Ou alors, victoire, tir au but, prolongation.
Prolongation, en l'occurrence.
Voilà, ouais. Dedans.
Donc c'était pas tout faux, c'est pas totalement juste non plus, dommage. Nous on va se projeter du coup sur les matchs de mercredi soir. Zug Zurich, Lausanne, Fribourg. Les cotes, Lausanne est à 2,10 à la maison, match nul à 3,55 et Fribourg est à 2,70. Zug à 2,30, match nul à 3,65 et Zurich à 2,35. Et là honnêtement ça devient difficile, tu peux aussi réfléchir peut-être est-ce qu'il y aura des buts, il n'y aura pas de buts, enfin beaucoup peu. J'ai l'impression que les Fribourg-Lausanne, il y a peu de buts en général. Mais c'est quand même une deux équipes qui sont capables d'en planter 3 ou 4 par tête. Donc,
Est-ce qu'il peut y avoir une fois un match du style un 5-6, un 5-4, un truc un peu plus illogique, on va dire, dans une de ces séries, mais c'est... Si ça se passe, ça peut se passer, mais ça peut se passer. Il y a plus de chances que ça se passe une fois, puis on dit, ah, tu vois, on disait qu'il y avait 2-1, oui, puis après, il y a eu combien de fois où il y a eu ça ? Une seule fois. Donc, il y a plus de chances qu'il y ait moins de goals dans ces matchs-là.
Lausanne, surtout le quart final contre Davos, c'était à peu près 3-2 le score de base. Il y a eu un 1-0, il y a eu un 3-0, c'était tout le temps moins de 5 buts et demi.
Puis il y a eu ce 5-2.
Voilà. Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans les paris qu'il y a, c'est plus de 5 buts et demi dans Zug-Zurich. C'est deux armadas offensives qui sont très, très, très solides, qui peuvent tout... Le danger vient de partout, absolument partout. Zug, défensivement, c'est pas la folie. Zurich, offensivement, c'est la folie. Je peux imaginer un doute qui doit ouvrir le jeu un petit peu et puis contre Zurich, ça peut faire assez mal. Donc, plus de 5 buts et demi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 6 buts dans le temps réglementaire Donc s'il y a 3-3 et puis que ça part en prolongation, on est tout bon. Je pourrais m'imaginer partir là-dessus. Si on doit réfléchir au vainqueur du match, moi j'aime bien Lausanne à la maison à 2-10. Parce que j'ai trouvé Lausanne solide contre Fribourg à l'extérieur. J'imagine qu'à la maison, ça peut passer. 2-10, c'est une jolie cote. Tu peux même t'amuser à te dire, ouais, mais cage vide ou j'en sais rien quoi, c'est Lausanne moins 1. Ça veut dire que Lausanne gagne avec plus d'un but d'écart. Donc 3-1 à la cage vide, par exemple, c'est à 2,85. Mm. Ça, c'est des idées comme ça. Et toi ?
Je me demandais quand est-ce qu'on aurait des matchs nuls finalement, ou en tout cas ces équipes, à noter que c'est 1, 2, 3, 4 du championnat, c'est pas forcément trop surprenant, mais quand même il y a 3 séries qui se jouent en 7 et au final c'est quand même les 4 premiers de la saison régulière qui sont les 4 dans le dernier carré. Je verrais quand même. Ouais, il y a des les matchs nuls me tentent presque aussi. Mais si je devais. On me dit non, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Et je me dis effectivement, Lausanne, à la maison, là, surfer sur un trend positif parce qu'ils n'étaient pas mauvais lors du premier match. Je serais assez d'accord. Et je me demande quand même si Zurich va pas aller faire une sorte de deuxième statement à Zug.
À 2,35.
Et la cote n'est pas folle, hein, par rapport aux 2,30 de Zug, finalement. Mais ma foi, si je devais vraiment... Qui va s'imposer, au final ? Mm-hmm. Alors, on peut faire après...
C'est 1,80. C'est vraiment l'équipe.
Aux prolongations...
Avec prolongation inclus.
J'aurais peut-être plutôt tendance à dire quand même Zurich. Et Dieu sait que c'est difficile parce que ça veut dire de jouer contre Giannoni. Mais ce Zurich là qui est mené 1-0 après un tiers, finalement tout d'un coup il revient, il y a un power play et il marque 3 goals quoi. Donc j'ai l'impression qu'ils auront leur chance et que à mon avis, ils sont encore en train de se dire ce match de 2022, cette série-là, ça leur est resté en travers de la gorge quand même.
Sinon, il y a des trucs marrants qu'on peut aussi s'amuser à faire. C'est que si tu te dis, ouais, je pense que Lausanne va gagner, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts.
Ouais.
Tu peux dire que Lausanne gagne avec au moins 5 buts et demi.
Ouais, c'est pas mal ça.
Ça te fait une cote à 3,30.
Ouais.
Par exemple, c'est le genre de paris qui sont aussi disponibles sur le site de la Loro. Et... Ça pourrait tout à fait être une piste où tu dis... Après, s'il y a 3-2, puis à la cage vide, là, tu trembles. Hein.
Absolument. mais à part ça, c'est le chenille de les matchs en play-off pour parier. C'est typiquement le genre de truc où t'arrives pas à définir les bookmakers. Tu l'as bien résumé. 1,80. Bah voilà. En gros, coin flip. Donc, à voir sur nos réseaux sociaux... mercredi matin.
Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
On parle hockey ?
Parlons hockey. Parlons le premier meilleur acte de cette série s'est terminé par une victoire de Fribourg 2-1. Un match serré, c'est surprenant. Un match où Lausanne a plutôt fait le jeu à 5 contre 5. A été plus solide à 5 contre 5, j'ai trouvé. Fribourg a été peut-être un peu plus opportuniste du coup de déviation, c'est là que tu vois. Mais déjà avant de parler de ça, Pache devant le filet pour Lausanne,
ouais.
C'est quand même une thématique drôle ou intéressante ou surprenante. Là on juge cette décision avec le recul, à savoir avec le match qui s'est déroulé. T'en penses quoi au moment où tu vois la feuille de match?
Je me dis, est-ce qu'il y a un problème avec Connor Hughes? Après je vois qu'il est sur le banc comme remplaçant, je me dis non, alors ça doit visiblement pas être ça. On parle de Connor Hughes qui sort d'un blanchissage à 31 arrêts contre Davos en match 7. D'ailleurs, il t'avait dit, je crois que tu l'interviews après le match aussi. Je trouve ça hyper intéressant. Il disait, non, mais je sentais que tout allait bien.
Et in
tout
my après. Bones, m'a-t-il dit.
Ok, mais après, là aussi, c'est toujours facile parce que tu reviens après le match, forcément ça, en connaissant le résultat. Mais je me dis, s'ils doivent une fois lancer Pache aussi. Et puis qui veut se le faire une Ludovic Weber comme Zurich, pourquoi pas maintenant, effectivement. En se disant, est-ce que Connor Hughes de jouer contre Fribourg, de jouer contre son ancien mentor Berra. Est-ce qu'il pourrait y avoir une petite pression supplémentaire qu'on essaye d'enlever ? T'as deux bons gardiens, finalement. C'est couillu et finalement, la décision, elle était bonne. Hein. Je pense pas que... Est-ce que Connor Hughes aurait fait beaucoup mieux que Kevin Page sur ce match ? J'ai pas l'impression que c'est Kevin Page qui coûte le match aux Lausannois.
Non, vraiment pas. Il fait un très joli match. Au moment où je vois la décision, enfin, je vois la feuille de match, je me dis « Ok, marrant. » Et il y a deux lectures potentielles, à mon avis. Soit on estime que Kevin Page ressemble plus à Niklas Schlegel qui a causé bien des problèmes à Fribourg-Gotteron, alors que Hughes ressemble un peu plus à Koskinen dans la morphologie, on va dire. C'est une option peut-être tactique, bêtement. Ou alors c'est simplement que Hughes a joué 7 matchs en un court laps de temps et qu'en se disant « Bon, on va à Fribourg, on n'est pas attendu ». À Fribourg, si tu gagnes le match, c'est jamais négatif, disons.
Absolument.
Mais est-ce que sur le long terme, en pensant à cette série, à long terme, on n'a pas meilleur temps d'avoir un Connor Hughes qui a eu peut-être un tout petit peu plus de repos, justement un peu le même nombre de jours de repos qu'a eu Reto Berra finalement avant cette demi-finale, en lui donnant un soir off, mais par contre mercredi, on le remet sur la glace. Sans rien enlever à la performance de Pache, moi je pense que mercredi soir on a de nouveau Connor Hughes devant le filet, mais il était très solide, il a fait les arrêts qu'il fallait, même au premier tiers-temps sur Berti, là il fait un mouvement depuis son poteau gauche sur la droite. Berti, alors certes il tire au sol, mais ouais, c'est quand même un très bel arrêt de Kevin Pache. Mais j'ai des petites surprises quand même dans l'alignement.
Absolument.
Autre surprise dans l'alignement lausannoise, c'était l'absence de Suomela. Surprise oui et non, parce que si, pour quiconque a vu la pété qu'il a ramassée samedi soir avec Sven Jung qui a tout ramassé, on va être clair, ça aurait été surprenant qu'il soit sur la glace, disons. Ouais. Il était touché à la tête. On voit sur les photos, au moment où il est sur la glace, qu'il a en dessous de l'œil, il a du sang, il a une trace de sang. Sven Jung a été suspendu de manière provisionnelle, ça lui fait une belle jambe. Je pense qu'en septembre, il pourra prendre quelques soirées barbecue en plus que les copains, parce qu'à mon avis, il aura un peu de temps au début septembre. Très, très vilaine charge de Sven Jung. Je sais pas. J'ai entendu des gens qui me parlaient justement à la pause du match, j'étais présent. Ah, c'est prémédité. Moi, j'ai toujours un peu de peine avec cette notion. Je pense qu'un joueur peut faire un coup. Coup de pute, appelons ça comme ça, sans que ce soit prémédité. Et si c'est prémédité, t'envoies pas un tes défenseurs, on va dire, robuste, solide et qui va jouer une vingtaine de minutes.
Voilà.
Quand t'as déjà une défense qui est sacrément affaiblie, t'envoies ton Jordan Gaylor, t'envoies Tim Linder, etc. Mais ça, c'est une notion dans laquelle je rentre pas trop, le coup de la préméditation. Et surtout là, alors oui, t'enlèves, si on fait une analogie avec les échecs, t'enlèves la reine adverse. Mais tu vas pas avec ta tour, quoi, ou tu vas pas avec ton cavalier, tu vas avec un pion. Là, ils ont pas envoyé un pion. Et l'échange est certes, si j'ose parler d'échange, à l'avantage de Davos, mais j'arrive pas une seconde à imaginer que dans le plan de match, il y a. Alors, on va péter la gueule à un joueur en face. Pour moi, ça rentre. Et peut-être que je suis naïf, peut-être que j'ai tort, mais j'arrive pas à vivre dans ce monde-là, je dois t'avouer. Mais toujours est-il. Pardon, vas-y.
Je serais pareil en me disant, est-ce que là, Lausanne se dit, il faut absolument maintenant qu'on fasse quelque chose pour sortir Berra. Parce qu'on sait que s'il y a Rueger, ce sera plus facile pour nous. Ah bah tiens, on va sortir Sørensen. On va sortir Malguin, on va sortir Derek Grant. J'ai l'impression que non, il ne se passe pas ça. Et en tout cas, effectivement, pas avec des bons joueurs. Quand Raffel sonne Nussbaumer, lors du match, d'un match précédent, qu'il le commotionne visiblement, il élimine le top scorer, mais c'est aussi un bon joueur qui le fait. Et je pense que Lausanne aurait été effectivement bien pénalisé s'ils n'avaient pas eu Raffel avec eux. Donc, à un moment, il faut laisser le jeu se faire et les acteurs se battre à la régulière. Là, c'était juste un peu, plutôt que préinviter, tu l'as dit, c'est juste moche.
Ouais, c'est vraiment une vilaine charge.
Puis, elle n'est pas utile. Le puck n'est plus trop là, même s'il est un peu vers les patins. Mais on voit que Suomela ne joue en tout cas plus le puck. Puis là, le gars qui vient derrière comme ça, avec la canne à hauteur des épaules, on va dire, ou en tout cas des omoplates, puis tu le balances. C'est vraiment juste inutile. Moi, je me disais que peut-être il pourrait jouer, même en voyant que que ça allait parce qu'il était revenu à la patinoire pour fêter un petit peu, en tout cas pour profiter de la fin de soirée. Il avait un pansement sous l'œil. Visiblement, c'était pas non plus trop. Il n'avait pas la pommette cassée, comme vous l'avez assez rapidement écrit. Donc je me disais qu'on pouvait potentiellement le revoir, tout en sachant qu'avec les commotions, c'est le truc le plus indécis et qui peut se résorber en 24 heures, qui peut durer 3 mois, qui peut... Tout dépend, quoi.
Ouais, ça dépend la gravité de celle-ci. Il y a le Lausanne HC qui a tweeté avant le match que Soumala manquera le pré-match à Fribourg. Les premiers examens réalisés confirment qu'il n'y a pas de fracture, ça on le savait. Le numéro 11 qui restera quand même en observation lors des prochaines 48 heures. La situation est évaluée au jour le jour. Et en fait, du coup, entre évaluée au jour le jour et en observation les 48 prochaines heures, je sais pas, j'arrive pas à voir. Bon, après, c'est les playoffs.
C'est déjà pas mal d'avoir un statement, on va dire.
Absolument, mais c'est vrai qu'en playoffs, c'est difficile de savoir. Et aussi, tu sais jamais trop ce qui se passe. Est-ce qu'ils prennent un risque, ils ne prennent pas de risque? Est-ce que c'est toujours l'aspect, en novembre, il n'aurait peut-être pas joué, mais acte 2 des playoffs, bah là, on a un tout petit peu moins précautionné. Et puis en même temps, je pense que les clubs sont sensibilisés à être précautionneux parce que justement, s'il reprend un coup à la tête au prochain match alors qu'il n'aurait pas dû être sur la glace, ça peut être désastreux. Donc, je pense que tu dois vraiment malheureusement faire très, très attention. Et j'ai assez l'impression que du côté de Lausanne, ils prennent très au sérieux les commotions. C'est un des clubs qui traque pas mal justement la santé des joueurs à ce niveau-là. Ils avaient des capteurs sur le casque pour voir s'il y avait des chocs à la tête, etc. Donc, je pense que s'il est sur la glace, à mon avis, ils auront écarté tout risque. Après, je suis pas médecin et je suis pas dans les bureaux des coachs, mais j'attends si Souamala sur la glace qu'il soit en tout cas en pleine santé. Je dis pas à 100% de ses capacités physiques, mais que tout risque lié à sa commotion est exclu. Problème, c'est quand il te manque ton centre numéro 1, et on l'a assez dit l'année passée que Lausanne manquait d'un centre numéro 1 dominant. Bah là, on se retrouve avec une colonne vertébrale Rochette, Fuchs, Jäger, Holdener. Et malheureusement, c'est trop léger. Malgré le fait qu'à 5 contre 5, Lausanne a été solide, fait un bon match. Mais je pense qu'avec une colonne de centre un poil plus robuste, bah, peut-être qu'ils font la différence en étant un peu plus dominants, mais peut-être que justement, ils arrivent à passer l'épaule.
La colonne de centre qui pourrait être de retour, on va dire Suomela, Fuchs, Jäger, Allemande,
voilà,
qui pourrait être de retour au complet samedi, si je ne dis pas de bêtises.
Parce que, 3, exactement.
Voilà, parce qu'Allemande aura purgé ses 5 matchs de suspension et il sera de nouveau éligible et habillable pour le match 3. Et Suomela, alors peut-être déjà dès le match de mercredi soir, mais ça, effectivement, Lausanne retrouvera à peu près tout le monde sauf Marty. Toujours Bougro, mais Bougro, c'était plus le remplaçant d'Allemande qui venait. Mais effectivement, c'est là que tu vois que finalement, même quand tu as un peu de profondeur, la profondeur de centre, c'est chaud. Hein. C'est pas... ça se trouve pas, en fait, sur les... dans le cul d'une vache, pour reprendre une expression de Kaamelott, quoi. Tu peux pas avoir un gars qui te gagne les engagements, parce que le centre, oui, l'aspect défensif, mais il y a quand même 2-3 choses que Allemande fait pas mal. Il y a 2-3 choses que Suomela fait pas mal. Surtout qu'en plus, il sortait d'un match à 3 goals contre Davos. Et après 12, c'était à la 12e minute du match 7 qui se fait sortir par Jung à peu près. Donc il a même pas eu le temps de jouer ce match-là. Donc finalement, il a manqué presque 2 matchs.
Oui.
Et on a presque l'impression que ce triplé, il est lointain. Ouh là là, c'était il y a un bon moment qu'il y a eu ce truc. Et en l'occurrence, c'est vrai que ça fait bientôt une semaine.
Tu parlais des engagements, justement, et c'est là où on a peut-être vu une grosse, grosse différence. Je sais que c'est le point engagement, c'est le tien, mais je me permets de le prendre. On a Valmark 6 remportés sur 7, Berchi 8 remportés sur 11, De La Rose 4 remportés sur 6. Et en face, t'as Rochette 4 sur 18. Il a 29% aux engagements. Et c'est peut-être pas un hasard s'il a joué beaucoup sur l'aile cette saison avec Suomela au centre, parce qu'on sait que jouer au centre, c'est une position qui prend du temps pour se développer. Et Dieu sait si on va pas lui jeter la pierre, parce que je pense qu'il fait pas un mauvais match contre Fribourg. Mais à cet endroit-là où tu as besoin justement peut-être d'un peu plus d'expérience.
Bah, il met Raffle de temps en temps, hein, pour aller récupérer 2-3 engagements.
Exactement. Mais la ligne de centre de Fribourg, c'est Valmark, De La Rose, Valzer, Schmidt. Et je pense que ces 4-là, c'est largement plus solide, même si, et c'est aussi plus robuste, je dirais.
Oui.
Là où tu as Fuchs, Rochette, Holdener, Jäger, ça va encore, mais les trois autres sont un petit peu moins solides. Donc, en l'état, Fribourg a un gros avantage ici, mais ça ne s'est pas concrétisé
non.
sur la glace et dans les actions de jeu. Et pour moi, une des raisons principales, est-ce que c'est l'œuf ou la poule, etc. On ne sait jamais. Mais est-ce que c'est le pressing de Lausanne qui a embêté Fribourg comme pas permis? Et donc, la relance fribourgeoise a été désastreuse toute la soirée. Et donc, Lausanne a pu en profiter. Parce que sur le nombre d'actions consécutives au fort-checking, Lausanne est largement devant Fribourg.
Ouais.
Ou alors c'est juste Fribourg qui a eu un mauvais puck management derrière. Du côté de Fribourg, on disait plutôt ça, c'est puck management vraiment pas bon, on doit être meilleur à la relance. Oui, mais si vous étiez aussi mauvais à la relance, c'est peut-être pas un hasard en fait. Et est-ce que Lausanne est capable de jouer un jeu qui coûte beaucoup beaucoup d'énergie, d'aller harceler sans cesse les porteurs de puck avec ton fort-checking? Si oui, ça va être chiant pour Fribourg toute la série, mais là, Lausanne l'a fait une bonne partie du match, surtout à partir du deuxième tiers. Mais à la fin, on a vu que dès le milieu du troisième, ils n'avaient plus vraiment les jambes. Et dès que Fribourg a marqué son 2-1, bah là, Fribourg a eu le beau rôle d'attendre un peu plus, de parquer le bus. Et Fribourg, quand ils défendent bien, sont solides autour de Reto Berra, bah ça devient difficile pour Lausanne. Je pense que c'est énergivore la façon de jouer du LHC. Mais contre Davos, ça a passé parce qu'ils ont usé Davos sur toute la série. Et là, la défense de Fribourg, elle n'a vraiment pas été solide. Il manquait Raphaël Diaz à Fribourg.
Moi, en fait, c'était le point. Je lui ai dit, tu parlais de relance. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de voir que, ah, tiens, il manque Diaz. Et que dans un match comme ça, on se dit, eh ben voilà, il aurait été vachement important pour donner quelques pucks plus propres. Parce que forcément, il est avec. Généralement, il est avec Borgman, Diaz, on est d'accord.
Oui.
Et que ça permet à Borgman de se concentrer sur autre chose, d'avoir à côté de lui quelqu'un qui fait une première passe, une des meilleures premières passes. Je veux dire, si Diaz n'a plus la vitesse, Diaz a encore la vision de jeu et sa première passe, il l'aura toujours, en fait. Elle va jamais disparaître. Donc là. Ça faisait que tu dois faire jouer un peu plus d'Oufner, tu dois un peu monter tout le monde quoi.
Bah, et là depuis quelques matchs, et Dieu sait sur toute la saison si j'ai trouvé qu'il a été solide, Benoît Jäger, ça commence à devenir sacrément compliqué. Alors il a eu, je sais pas si c'est un blocage mental à un moment, mais il a eu sa pénalité de match contre Lugano. Ensuite il a eu le 2x2 lors de l'acte 7 contre Lugano qui a failli coûter très très cher. Là il a vécu un cauchemar sur la fin de série contre Lugano. Et là, ce premier match, le nombre de pucks galvaudés à la relance, le nombre de pertes de pucks, et là, encore une fois, c'est lié au fort-checking lausannois qui a fonctionné mais magnifiquement. J'ai trouvé sous terre moyen aussi.
Mais moi, je l'avais trouvé bon au début contre Lugano. Les quatre
premiers matchs.
Je me disais, ah bah dis donc, certains qui critiquent sous terre, dans les supporters fribourgeois, je me disais, bah en tout cas, alors, je trouve qu'il est vraiment solide, il est le sous-terre qu'on attend de lui, c'était ce qu'il produisait sur la glace, solide, pas à laisser trop d'espace, je pense vraiment dur sur l'homme, et c'était bien. Maintenant, si même avec, tu vois, un sous-terre qui est, tu dis les quatre premiers matchs, sous-entendu les trois derniers c'est plus compliqué, ce match de demi-finale c'est plus compliqué, mais le Fribourg n'encaisse quand même qu'un seul goal, et c'est pas que parce qu'il y a Reto Berra. Bien sûr que c'était une bonne partie, mais Fribourg, toute la saison, s'ils ont fini deuxième, on a aussi loué la tactique défensive, et c'est pas nouveau. J'ai l'impression que sous Christian Dubé, ça fait quand même un moment que... Oui, Reto Berra, mais quand il y avait eu Connor Hughes à la place, il avait été bon. Des fois, quand il y a Rueger, ils arrivent bien. C'est peut-être un tout petit peu moins sûr qu'avec Berra, mais c'est logique. Mais qu'en tout cas, il y avait jamais des immenses trouées de la part de Fribourg parce qu'ils ont un système. Les cinq joueurs sur la glace savent exactement ce qu'ils doivent faire.
Oui, absolument. Je pense que la qualité des chances accordées aux adversaires est moindre avec le système défensif de Fribourg. Ça, c'est une évidence. Malgré tout, sans Raphaël Diaz derrière, il manque quand même une pièce importante. Ça te force quand même à Gunderson à jouer 25 minutes. Gunderson qui a bientôt 40 ans, il a 39 ans, ou il va se faire 39. Mais il est de nouveau, et on le disait, hein, quand ils l'ont prolongé d'une année, que c'était totalement mérité parce que c'est un joueur qui... C'est le pro par excellence.
Ouais, c'est ça.
Il tient ses 25 minutes, il est solide. Là, il joue encore... il joue plus de 6 minutes des 25 en powerplay. C'est pas des minutes... Il faut les faire, hein, les minutes.
Oui.
Mais c'est pas... si c'est 6 minutes de boxplay à la place de 6 minutes de powerplay, c'est non plus pas la même chose. Mais Diaz a été annoncé malade en fin de match. Il parlait, Dubé parlait de qu'il devait passer des examens aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est les playoffs, ouais. Encore une fois, on ne sait pas. En même temps, dimanche, lors de l'entraînement, il s'est visiblement fait un petit quelque chose. Il a quitté l'entraînement avant les autres. Donc, il y a une petite incertitude autour de Rafael Diaz. En l'état, c'est problématique. Moi, je t'avoue que je sors. Oui, Lausanne a perdu. Mais j'ai presque l'impression d'avoir plus de certitude sur le LHC que j'en ai sur Fribourg-Gotteron. C'est aussi lié au fait que Fribourg a fait un de ses plus mauvais matchs depuis très longtemps. Et tu peux le voir dans les deux côtés.
Est-ce que c'est Lausanne qui t'a fait mal jouer ou est-ce que c'est toi-même qui t'es mis dans cette situation? Mais en même temps, c'est quand même... Alors, je vais me faire l'avocat du diable par rapport à ce que tu disais. Tu joues peut-être un de tes plus mauvais matchs, mais tu sors vainqueur.
C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est que tu peux le voir dans l'autre sens aussi. C'est qu'en fait, tu trouves quand même un moyen de gagner. Malgré ça, et j'en parlais avec Delarose à la fin du match, puis qui me disait, finalement, on sort pas renforcé dans nos convictions. Par contre, on se dit que malgré cette prestation-là, on gagne. Et... lui a décidé, et c'est logique, hein, de le voir plutôt dans l'autre sens, en disant c'est le verre à moitié plein, comme dirait Marc-André Berset quand il vient chaque fois à notre micro. Et c'est le cas, c'est que tu remets finalement la pression sur Lausanne, mais tout en sachant qu'il va falloir en gagner 3 de plus et ils ne vont pas passer 3 fois en jouant des matchs comme ils ont joué ce mardi soir. Je trouve que c'était quand même, c'était quand même pas très bon, on va dire.
En même temps, est-ce qu'on s'attendait véritablement à un match de super qualité, étant donné qu'on sait que ça joue serré, ça joue physique, on essaye de donner peu d'espace, on essaye de faire attention au niveau des pénalités, on a deux bonnes équipes à 5 contre 5. Est-ce que vraiment on s'attendait à des feux d'artifice? Je sais pas. C'est deux équipes quand même qui sont allées au match 7. Il y avait la question de la récupération qui était... plus une question du côté lausannois, puisque le 7e match était intervenu samedi, que dans le cadre de Fribourg, où le 7e match était intervenu jeudi. Les deux équipes se sont fait un peu peur, finalement. Elles ont réussi à se qualifier. 4-2, 3-0, peu importe, mais dans les deux cas, il a fallu aller jusqu'au bout. Et oui, t'as le soulagement, mais... je me dis que quand je vois le match de lundi soir, on est parti pour une série normalement assez longue.
Oui, j'ai envie de te dire ça aussi.
Et puis après, tout d'un coup, il y a 4-0 pour Fribourg, puis on se dit « Ah ouais, super !» Mais...
si on regarde les statistiques du match, si je suis sur le tweet d'Analyse Data qui a mis son tracking après le match, on se retrouve, et c'est étonnant, moi je trouve, alors j'avais vu les stats avant de commencer cet épisode, mais on se retrouve avec Lausanne qui a 1,98 expected goals sur tout le match et Fribourg qui a 1,78. Donc, il y a une différence qui est quasi nulle, 2-1. C'est juste, Fribourg a un tout petit peu surperformé par rapport à son expected goals et Lausanne a un peu sous-performé.
Est-ce que ce ne serait pas la chance, finalement, un peu, que tu vas provoquer, hein, on parlait de l'action de Sprunger, qui, ce patin qu'il met, qui fait que le puck reste dans la zone et que derrière, un tir un peu voilé ou dévié, et puis, puis après, derrière, tu tiens le fort. Et qu'il aurait pu avoir, en fait, à la place de 2-2, il aurait pu avoir pendant longtemps 1-1, finalement.
Ah bah ouais.
Et puis, prolongation. Donc,
Ce que j'ai bien aimé, par contre, dans le jeu fribourgeois, on a pas mal parlé des aspects un peu négatifs, mais ils ont aussi fait des bonnes choses durant cette rencontre. Déjà, il y a eu l'excellent match de Retobera, mais ça, c'est même presque plus un... c'est plus vraiment une nouvelle. C'est la capacité à gérer le puck en zone offensive. Et ce qui n'a pas été vraiment réalisé très souvent dans la série contre Lugano, je trouve que Valmark et Sorensen ont beaucoup plus pu combiner en zone offensive, notamment eux, mais pas que. Et c'est des minutes de qualité qu'ils arrivent à générer, justement, où ils peuvent presser autour de la défense. Ils ont 0,85 expected goals en possession en zone offensive, ce qui est vraiment beaucoup à titre de comparaison. Lausanne a 0,36 sur ce match, donc plus de 2,5 moins. Ça compense le fait que, justement, au forechecking, Lausanne a été largement meilleur que Fribourg. Mais par contre, quand Fribourg arrive à s'installer zone offensive, ils arrivent beaucoup à tourner autour de la défense lausannoise. Et c'est pas un hasard avec des Di Domenico, des Berchi, des Valmark, des Sørensen, ce genre de joueurs-là qui aiment avoir le puck sur la palette, qui aiment tourner zone offensive, qui sont capables de dribbler dans les petits espaces. Ça te fait vite une sacrée différence. Mais bon, pour pouvoir faire cette différence-là, il faut être en zone offensive, il faut un meilleur jeu de transition. Et le rush de Fribourg n'a pas été bon, celui de Lausanne a été excellent. Et ça va aussi être un des points sur lesquels Fribourg doit absolument progresser, c'est le repli défensif et gêner le jeu de transition lausannois, ce qui n'a pas été très très bon mardi.
Mais le jeu de transition lausannois qui est toujours bon en fait, depuis le début de la saison, c'est une des forces du jeu lausannois, c'est les entrées de zone et les sorties de zone défensive, entrées de zone offensive. Donc travailler, tu te dis, j'ai envie de dire presque plutôt s'ajuster ou essayer de minimiser l'impact, parce que j'ai l'impression que Lausanne va arriver à trouver des solutions. Après, il y a des jeux risqués. Hein. Moi, des fois, quand ils se font certaines passes en défense, tu fais « Ah, t'as confiance !» Après, ils ont certains joueurs. Je pense qu'on a assez parlé de Juice, on a assez parlé de Glauser. Effectivement, Pilot, depuis le début des playoffs, je trouve que c'est un autre animal aussi, qu'il est quand même, peut-être même fin de saison, plus début des playoffs, où il commence vraiment à montrer qu'il est un excellent défenseur et un véritable renfort pour cette équipe. Puis après, il y a Elner et Frick qui sont vraiment pas mal en ce moment aussi. Et même un Genadzi qui peut amener un petit quelque chose assez spécifique. Mais effectivement, à son âge aussi, on lui laisse un rôle un peu moindre. Mais il en fait quelque chose.
Justement, Jeff Hardy, il joue avec 6 défenseurs. L'absence de Marty change pas vraiment la donne parce qu'il jouait pas beaucoup plus à 7 ou à 8 avant pour autant. Mais là, il donne une minute et quelques à Jelovac. Mais du coup, ça le force à jouer 26 minutes 21 avec Andrea Glauser.
Ouais.
Ça, c'est beaucoup.
Oui.
23-51 pour Joss et aussi 22 et quelques pour Pilot. Pilot qui fait un bon match, hein, clairement. Mais si tu regardes sur le but, c'est quand même lui qui va dans le coin et qui perd le puck dans le coin. Ouais. Alors pas tout à fait, parce qu'il le ressort un peu vers Genadzi, qu'il le remet dans le coin. Puis après, bon, bah, 2 secondes après, il y a goal, ça va tellement vite. Mais Pilot, il a fait une série contre Davos qui était époustouflante. Puis t'en avais déjà parlé une fois dans ces épisodes, mais ces petits pas de danse ou ces entrechats, ou je sais pas comment on appelle ça, la ligne bleue qui met tout le temps le défenseur sur les pattes arrière. Bah, il est vraiment très très fort techniquement, il est ultra fort, mais bah là voilà, il amène offensivement, là il a un tout petit peu de peine sur une action, mais c'est presque un détail, mais tu me diras, il perd 2-1 quoi.
Bah, c'est surtout j'ai l'impression qu'on est des perroquets des joueurs qu'on a tendance à pas à critiquer mais à mettre en exergue. Ouais, alors c'est les playoffs, vous savez, faut prendre les matchs les uns après les autres, puis bon bah ça va se jouer sur des détails, hein, vous le savez, et oui, ça se joue sur des détails. Il n'y a qu'à voir, il y a 2-1, des toutes petites actions où finalement, tu ne peux pas tellement te dire qu'est-ce qui a mal marché. Je pense qu'on peut effectivement décortiquer le but fribourgeois, le 2-1, puis dire là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur. Mais j'ai l'impression que c'est chaque fois une erreur. Ce n'est pas une erreur immense où tu laisses 2 mètres d'espace à ton défenseur, à l'attaquant, où tu fais tu fais vraiment des grosses fautes de marquage, tu te fais prendre de vitesse, des trucs comme ça. Il y a une fois, est-ce que c'était Sørensen qui a failli passer en injection?
Absolument, fin de match.
Sur Elner, je me suis dit, ouf, là, Lausanne n'est pas passé loin. Mais parce que Sørensen n'a pas eu l'occasion non plus tellement d'utiliser cette vitesse. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ouais, alors, faut que Lausanne arrive à bloquer ces choses-là s'ils ne veulent pas se retrouver. Parce qu'une fois, le gardien va pouvoir aller, mais il ne faut pas qu'il se présente 2-3 fois tout seul s'il n'a pas marqué plus de 30 buts pour rien. Donc,
Mais justement, on en revient au jeu de transition lausannois qui était bon, ensuite Fribourg qui était un tout petit peu limite. Mais c'est tout part du forechecking lausannois. Et oui, là, c'est une des rares occasions où Fribourg a pu justement créer des décalages et se présenter seul. C'est marrant parce que si tu fais abstraction du score final, j'ai l'impression que Lausanne a gagné en fait, en parlant ou en écoutant. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que on n'attendait pas grand-chose de Lausanne à Fribourg dans ces circonstances.
Exactement.
Pas dans l'absolu, mais dans ces circonstances où tu n'as qu'un jour de repos. Et ça aussi, bah, on peut en parler deux secondes. Hein. Mais Fribourg avait fini sa demi-finale jeudi soir. Lausanne, samedi soir seulement, 48 heures après. Donc, il n'y a que 24 heures de repos pour Lausanne par rapport à Fribourg. Dans l'absolu, qu'il y a un écart, j'ai aucun problème avec ça.
Non, bah, enfin, il y en aurait eu de toute façon un.
Voilà, Fribourg et Zurich ont fini premier et deuxième. Bah voilà, vous jouez le premier quart de finale et vous jouez un jour, vous finissez un jour avant. Voilà, ceux qui finissent 3 et 4, ils n'avaient qu'à finir 1 et 2, c'est votre faute. Mais par contre, qu'on n'ait pas joué le vendredi soir, ça doit sûrement être une question de férié.
Bah c'est vendredi saint, quoi.
De bouchons sur les routes, parce que si tu ne sais pas si tu as le match 7 à Lugano le vendredi saint. Bon courage.
Alors, bon courage, effectivement.
Et je pense... Hein,
je pense qu'il faut partir jeudi, voire mercredi d'avant, mais tu sais pas.
Après le match 6, ouais, tu fais une mise au vert au Tessin. Mais je pense que c'est purement pour cette raison que le match de vendredi n'a pas eu lieu. C'est pas une question de férié, parce qu'on a aussi joué lundi. Et à certains endroits, c'est férié aussi. Moi c'est férié, honnêtement.
Lundi de Pâques, et en foot, il y avait aussi des matchs. Ils aiment bien utiliser ce jour-là. Donc,
ouais, puis moi, les férés, honnêtement, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais pas trop. J'étais à Fribourg justement pour ce match-là. J'étais surpris de voir les magasins ouverts.
Ouais.
Tandis qu'on part du canton de Vaud et c'était fermé. Et après, des fois, c'est l'inverse. Moi, je suis toujours paumé, donc je sais jamais trop quoi penser. Vendredi, je crois que c'était férié partout, si je me trompe pas.
Enfin, il me semble aussi, mais.
Voilà. Mais ça, bon. C'est pas là, on est les plus grands spécialistes. Mais toujours est-il que. Ce jour d'écart, il fait quand même une différence au final. Bon, je disais avant, fin de match, il a quand même toujours manqué un tout petit quelque chose à Lausanne pour faire la différence. Ils ne se sont pas montrés ultra dangereux sur les dernières minutes.
Bah, le 6 contre 5, on va dire, ils ont réussi à maintenir bien le puck en zone.
Mm-hmm.
Ça, j'étais assez surpris parce que je me disais, bah, ils sortent le gardien, mais ils sont fatigués. Donc, le 3-1 dans la cage vide, ça m'étonnerait pas. Puis finalement, non, Fribourg n'est pas arrivé. Ils ont réussi à maintenir. Puis surtout, je me disais, les engagements n'étaient pas extraordinaires du côté lausannois. Tu vas engager en zone de défense fribourgeoise. Bon, bah, si tu veux être à 6 contre 5 puis que ça vaille quelque chose, t'as intérêt à avoir le puck. Quoi, parce que sinon,
ouais, c'est là, justement. On en a déjà parlé dans ces épisodes. Il n'y a pas une corrélation immense entre l'équipe qui gagne le nombre d'engagements et l'équipe qui gagne les matchs. C'est pas hyper corrélé. Par contre, l'équipe qui gagne l'engagement dans la dernière minute, si elle mène au score, là je pense qu'il y a une plus grande corrélation quand même entre le résultat qui va avoir lieu quelques secondes plus tard. Là, il y a eu deux engagements en zone offensive pour Lausanne. Ils ont pu en faire quelque chose une des deux fois. Ça débouche sur un tir de Béra. Sur Béra, il lâche pas un rebond. Là, contre Lugano, en fin de match, il avait été excellent aussi. Contre Lausanne, c'est pas Lugano, c'est hallucinant, on n'a pas parlé vu que on a pas refait d'épisode depuis, mais il y a eu un save hallucinant sur Carr où il fait encore un peu le malin après. Moi, j'ai jamais vu Béra autant expressif que lors de ce match contre Lugano. Il était dans une soirée spéciale, j'imagine, mais là il a pas d'arrêt incroyable.
Bon, son save sur Rochette, finalement, où il va le chercher dans le dos, c'est quand même.
Ouais, mais celui-là, je le mets de côté parce qu'il y a. Il aurait pas compté.
Ouais.
Mais dans le sens, je dis en fin de match, moi, sur les dernières minutes, quand Lausanne pousse, il a pas d'immense arrêt à faire. Par contre, il les fait tous et surtout, il donne aucun rebond. Ou quand il lâche une fois un rebond devant lui et puis il a été prompt à se jeter sur le puck quand même. Mais ben voilà, quand tu payes Reto Béra ce que tu le payes, je sais pas, c'est pas moi qui verse son salaire, donc je connais des combien, mais je pense 2-3 centaines de milliers de francs quand même, hein, voire beaucoup plus. Bah, tu sais pourquoi. Et c'est maintenant que tu vois pourquoi c'est le money time pour lui, et c'est maintenant qu'il doit justifier son salaire annuel. Et il le fait clairement contre Lugano lors du match 7, contre Lausanne lors du match 1. Ça te fait la différence. Parce que justement, on parlait de quasi un expected goals similaire de part et d'autre. Bien, des deux gardiens qui en ont pris un de moins.
On a une question aussi de Greg Retorna qui nous la pose sur les réseaux sociaux. « Salut les gars, vous pensez quoi de ces power breaks ? Je comprends qu'on puisse vouloir ça pour des raisons marketing, bien entendu d'argent, mais parfois, ils sont juste mis après un dégagement interdit, voire même juste avant un power play qui permet de reposer tes meilleurs éléments. Je suis supporter fribourgeois, mais j'ai vraiment eu l'impression que ça nous a avantagés même hier soir. » Et ça, c'était à l'époque du match 7 contre Lugano.
J'ai juste l'impression aussi que les power break étaient des fois un peu placés de manière
incongrue,
au doigt mouillé, quoi. Effectivement, j'ai pas noté de avant un power play, mais s'il l'a écrit, je lui fais à 100% confiance. Déjà, le power break, Je suis pas ultra favorable à ça, mais bon, il faut vivre avec son époque. On veut pas non plus faire les vieux cons systématiquement. Donc, j'entends. Ma foi, c'est un moyen de gagner de l'argent.
Ouais.
Le hockey, les droits du hockey coûtent cher. C'est un moyen aussi de peut-être de renier un peu sur le coût des droits parce qu'on met des pubs supplémentaires. Enfin,
ça permet d'aller faire pipi pour ceux qui sont à la maison.
Voilà, ceux qui sont à la patinoire, ils peuvent pas en dire autant. Mais surtout à Fribourg, les places de presse, tu dois faire lever 36 personnes avant d'avoir une chance de pouvoir toi te lever. J'exagère évidemment, c'est pas 36, c'est seulement 28. Non, ça va, j'avais que deux personnes, mais ça reste bizarre. Mais donc sur la patinoire, tu peux pas, mais oui, devant la télé, ça aide. Je comprends complètement le concept des power breaks. De le mettre à des moments... Justement, je pense que contre Lugano, il y a deux fois où Fribourg, en revenant du power break, a eu à chaque fois un moment fort, un temps fort durant les matchs. C'était lors du match 7, justement. Et là, tu dis clairement, ça offre aux équipes qui ont peut-être un peu moins de profondeur. Je ne dis pas que c'est le cas de Fribourg dans l'absolu, mais ça offre quand même un peu de moyens de dire bon, attends, on a fait 1, 2, 3 power break, c'était notre quatrième ligne qui devait aller. Ouais, alors on va repartir avec notre 1 plutôt que notre 4 parce qu'il y a eu, entre guillemets, presque un shift de plus avec ces 45 secondes de power break. C'est comme si la 4 était rentrée pour son shift et ressortie. Et là, tu peux repartir avec ta 1. Donc, tout en ayant pu, en plus, faire un ajustement tactique si nécessaire, c'est un petit temps mort.
Ça, ouais, alors, 45 secondes de power break, c'est même un grand temps mort où tu peux vraiment reposer tes meilleurs éléments. Et aux États-Unis, il me semble, mais qu'ils font attention justement de ne pas accorder ça avant... une situation spéciale pour pas alors encore ajouter au truc. Puis en plus, eux, ils en ont en tout cas deux, voire trois power break par
Mais justement, au championnat du monde, on le dit quand même chaque année, je pense, il y a à chaque fois un power break avant ou après, enfin avant surtout, les supériorités numériques, et ça nous énerve, mais il y en a plus à caler. Oui. Là, j'ai l'impression que tu dois être capable de le faire à un autre moment. Mais oui, c'est un outil supplémentaire, on va dire, dans la boîte à outils des coachs, de dire, bah, on a ça à un moment pour faire un petit ajustement, pour justement, bah, peut-être quelle ligne on va mettre à ce moment-là, puis ah ouais, on peut réenvoyer là. Renvoyer là, si t'es à domicile, bah, tu peux encore plus t'ajuster sur l'équipe adverse qui va être... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de petits avantages. Est-ce que c'est super? Est-ce que ça va avec l'essence du jeu? Je suis pas totalement persuadé. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est finalement logique qu'il y ait ces 45 secondes et qu'il y a une coupure pub sur une demi-heure de télévision finalement?
Ouais.
Malheureusement, je crois qu'on peut pas se battre à la contre. Là, c'est se battre contre les moulins, donc autant l'accepter et puis se dire que c'est 45 secondes pour regarder une stat, pour remonter son fil Twitter. Ça, on trouve toujours de quoi faire pendant 45 secondes. Et voilà, on termine cet épisode numéro 32 de la saison de Colfax. Premier épisode des demi-finales. On se réjouit de la suite parce que ça va monter en puissance, j'ai l'impression, cette série. Du moins, c'est ce que tout le monde nous a promis après le match, qu'il y avait peu d'émotions, mais vous verrez. Alors, je me réjouis qu'on voit.
On verra.
Ils n'ont pas dit vous verrez. Hein. Mais quand même, tout le monde était assez d'accord pour dire que c'était un premier match et que c'était presque un peu un faux rythme à certains moments. D'ici le prochain épisode qui aura lieu jeudi après l'acte numéro 2, il ne le sait pas encore parce qu'au moment où on enregistre ça, je ne l'ai encore pas contacté. On risque de contacter un jeune journaliste de la Liberté qui est déjà passé à
oui,
ce micro
ça, absolument.
Pour parler de l'aspect fribourgeois. On va forcément se projeter sur Lausanne un peu plus tard aussi. On va parler des deux équipes évidemment. D'ici là, et si on arrive à caler nos rendez-vous, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On est très content d'y répondre lorsqu'on peut, lorsque ça s'y prête, lorsque la thématique colle avec où on veut aller. Et n'hésitez pas à venir nous dire bonjour dans les patinoires. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions, sollicitations et à vos remerciements quand il y en a ou à vos remarques, parce qu'il y en a aussi et ça fait toujours très plaisir.
Est-ce que tu seras là mercredi? La question ne se pose même pas.
Bah, pour moi, elle se pose pas, mais pour d'autres à ce micro, on a le droit de se poser.
Alors,
est-ce qu'il y a un expected Jean-Fred mercredi?
Absolument, mercredi c'est bon. Après samedi, le truc à la base, je devais aller à la finale de la Coupe de Suisse de basket à Fribourg, qui se joue à 18h avec le match à 20h. Alors oui, on est l'un à côté de l'autre, mais le problème c'est que tu peux peut-être pas faire des interviews de joueurs à la fin. Donc faut que je vois si finalement je me déplace de la salle Saint-Léonard à la patinoire Saint-Léonard. Et que finalement je n'irai pas au basket et que je laisse ça à quelqu'un d'autre pour pouvoir me concentrer sur le hockey.
Quelle vie,
hein? Mais on aime bien.
Très bien, d'ici jeudi, portez-vous bien, bon match pour ceux qui y seront, bon match pour ceux qui sont à la télé aussi.
À bientôt.